Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dague et Delphine Amblat. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP. Et on commence. Bienvenue dans le monde troublant du docteur Christopher Daniel Dunch, un neurochirurgien dont le nom résonne comme un écho funeste. Dans la région de Dallas-Fort Worth, au Texas, il exerce son art. Mais derrière ce titre de médecin se cache bien autre chose pour ses patients. Imaginez-vous allongé sur la table d'opération, confiant en la compétence de votre chirurgien. Les lumières blanches éclairent la salle stérile, et le bourdonnement des machines médicales emplit l'air. Vous vous apprêtez à vous faire opérer. Retenez votre souffle alors que nous plongeons dans cette histoire, car chaque incision, chaque scalpel, chaque décision du docteur Dunch peut sceller le destin de ses patients. Mais qui est vraiment Christopher Daniel Dunch? Derrière ce nom se cache un jeune homme plein d'ambition, à l'aube d'une carrière médicale prometteuse. Né le 3 avril 1971, il grandit à Memphis, dans une famille dévouée à la foi. Son père, Donald, est un physiothérapeute respecté et un missionnaire chrétien dévoué. Sa mère, Suzanne, est enseignante. Christopher est l'aîné de 4 enfants, avec 2 frères, Nathan et Matt, et une sœur, Liz. Christopher, tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple à tes frères et sœurs, lui dit souvent son père. L'exemple, murmure-t-il. Je serai l'exemple. Je serai le modèle. Alors, il aide Nathan avec ses devoirs, encourage Matt à persévérer au football et rassure Liz lorsqu'elle fait des cauchemars. Christopher fait ses études à l'Evangelical Christian School à Cordova, Tennessee. C'est là qu'il se distingue en tant que joueur de football. Après avoir excellé dans son équipe de football universitaire de Division 3 à Millsaps College, Dunch décide de transférer ses talents à Colorado State University en Division 1. Cependant, malgré son acharnement à l'entraînement, Christopher Dunch se heurte à un verdict implacable de ses anciens coéquipiers. Il manque de talent pour le jeu. Il travaille dur, c'est sûr, dit l'un d'eux. Mais il lui manque quelque chose, il n'a pas ce don naturel que certains ont. Mais Christopher ne se laisse pas abattre par ses commentaires. Il est déterminé à prouver qu'ils ont tort. Il s'entraîne encore plus dur, passe des heures à étudier les tactiques de jeu et à améliorer sa condition physique. Cependant, ses coéquipiers remarquent rapidement ses difficultés à suivre les consignes et à exécuter les exercices les plus basiques. Malgré sa passion, ses performances ne sont pas à la hauteur, ce qui entraîne de multiples transferts qui, finalement, le rendent inéligible pour le jeu professionnel. Le rêve du football s'efface, laissant Christopher face à un choix. Que doit-il faire de sa vie? Ce revirement du destin amène Christopher dans une toute autre direction. Il abandonne ses aspirations footballistiques car le domaine de la médecine l'appelle. Il se lance dans une nouvelle voie. « Je veux faire plus que jouer au football », dit-il à ses amis et à sa famille. « Je veux aider les gens, je veux faire une différence. » Le destin de Christopher Dunch prend un tournant décisif. Mais ce n'est que le début de son parcours tumultueux, marqué par des événements sombres et troublants. Il termine son cursus de premier cycle en 1995, puis s'engage dans un ambitieux programme MD-PhD. C'est un programme de doctorat en médecine et en sciences, permettant aux étudiants de devenir à la fois médecin, MD, et chercheur scientifique, PhD. Les salles de cours et les amphithéâtres deviennent ses nouveaux terrains de jeu, où il affrontera des adversaires bien plus redoutables que n'importe quelle équipe de football. Mais dans cette arène, les enjeux sont bien plus élevés. Il ne s'agit plus de marquer des buts, mais de sauver des vies. Dunch excelle à l'école de médecine, ce qui lui permet de rejoindre la prestigieuse société d'honneur médical Alpha Omega et de collaborer avec des scientifiques russes sur des programmes de recherche. Il obtient ainsi un financement de 3 millions de dollars. En 2010, après des années d'études acharnées et de travail sur le terrain, Dunch termine les programmes de MD-PhD et d'internat en neurochirurgie à l'University of Tennessee Health Science Center. Ses collègues et ses professeurs le félicitent pour son dévouement et son travail sérieux. « Christopher, tes efforts t'ont conduit jusqu'ici », lui dit l'un de ses professeurs. « Tu as un avenir brillant devant toi. As-tu déjà choisi une spécialisation ?»«
Je pense me spécialiser en chirurgie de la moelle épinière », répond Christopher.
« Excellent choix. Difficile, certes, mais excellent. En tout cas, tu as un avenir prometteur. Je te souhaite bon courage et une carrière exceptionnelle », dit le professeur avec affection.
« Merci, professeur. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes », répond-il.
Par la suite, Dunch complète un programme de fellowship, c'est-à-dire un programme de perfectionnement en chirurgie de la colonne vertébrale, à la Sems Murphy Clinic à Memphis. Il est prêt à commencer sa carrière en tant que neurochirurgien, prêt à faire une différence dans la vie des gens. Pendant sa résidence en neurochirurgie, sa consommation de drogue, commencée il y a quelques années, augmente de manière alarmante. Il prend fréquemment du LSD, de la cocaïne et se procure illégalement des analgésiques sur ordonnance. Durant sa quatrième année de formation, des soupçons au sujet de sa consommation commencent à émerger. Son ex-petite amie, Megan, pensait initialement que c'était juste quelque chose qu'il faisait occasionnellement. Mais on commence à le soupçonner d'opérer en étant sous l'influence de la cocaïne. Après une nuit complète de prise de drogue, de vodka et sans sommeil, Megan se souvient d'une matinée particulièrement terrifiante. Les yeux rougis par le manque de sommeil, elle regarde Christopher enfiler sa blouse blanche. Il est prêt à partir travailler malgré la nuit blanche passée entre drogue et vodka.
« Christopher, » dit-elle d'une voix tremblante, « tu ne peux pas y aller, pas dans cet état. »
Il se tourne vers elle, un sourire étrange sur le visage.
« Je suis en pleine forme, Megan, » rétorque-t-il. Sa voix est remarquablement ferme. « Je suis parfaitement capable de gérer la situation. »
« Christopher, non, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. » Tu es toujours sous l'emprise des drogues.
Je sais parfaitement ce que je fais, Megan. Je suis un professionnel. Ce sont des neurostimulants, ajoute-t-il sur le ton de la plaisanterie. Elles me rendent plus performant et plus vigilant au bloc opératoire.
Mais juste avant de franchir le seuil de la porte, Dunch fait quelque chose d'encore plus terrifiant. Il consomme de la cocaïne. Megan, horrifiée, le regarde s'éloigner. Il se dit prêt à interagir avec les patients, prêt à opérer, malgré son état. Elle reste là, impuissante, alors qu'il disparaît de sa vue, laissant derrière lui une vague de peur et d'incertitude. Sa drogue préférée est la cocaïne. Lorsqu'il redescend après des orgies, il compte sur l'oxycontin, le Xanax et l'alcool pour atténuer les effets secondaires.
Il a toujours une bouteille d'oxycontin dans sa poche, se souvient un ancien collègue.
Beaucoup disent qu'il commence ses journées avec une vodka orange et une ligne de cocaïne.
« C'est comme son petit déjeuner », dit un autre collègue. « Il dit que ça le met en forme pour la journée. »
Tout au long de cette période sombre, Dunch continue à pratiquer la neurochirurgie, mettant en danger la vie de ses patients. Malgré les signes évidents de son comportement autodestructeur, il réussit à échapper à la détection pendant une période incroyablement longue. Cependant, la situation prend un tournant inattendu lorsque plusieurs infirmières témoignent avoir vu le docteur Dunch consommer de la cocaïne juste avant d'entrer dans la salle d'opération.
Je l'ai vu faire, murmure l'une d'elles, les yeux écarquillés par la peur. Moi aussi je l'ai vu. Il pensait que personne ne le regardait, confirme sa collègue. Ces témoignages marquent le début d'une prise de conscience collective de la gravité de la situation et de l'urgence d'intervenir pour mettre fin à ses agissements. Son comportement est signalé et on lui demande de passer un test de dépistage de drogue. « Je refuse », déclare-t-il fermement. En conséquence, il est envoyé dans un programme pour médecins en difficulté. C'est un lieu de réhabilitation, mais pour le docteur Dunch, c'est une punition. « Je n'ai pas besoin d'aide », insiste-t-il. « Je suis parfaitement capable de gérer ma situation. »« Docteur Dunch, vous avez un problème », lui dit le directeur. « Vous devez vous faire aider. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. »« Je suis en contrôle. Je sais ce que je fais. » « Non, docteur Dunch, » répond le directeur avec une fermeté inébranlable. « Vous n'êtes pas en contrôle. Vous êtes en train de vous perdre, et pire encore. Vous mettez en danger la vie de vos patients. »« Je suis un bon chirurgien, » insiste Christopher, mais sa voix trahit une pointe d'incertitude. « Vous êtes un danger. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu. Nous vous inscrivons au programme d'aide pour les médecins en difficulté. C'est non négociable. » Il reste plusieurs mois dans ce programme avant d'être autorisé à retourner à la résidence. Ainsi se déroule la descente aux enfers du docteur Dunch, un homme qui, malgré son talent et son potentiel, a choisi un chemin sombre et dangereux. Lors d'une déposition, il est interrogé sur sa consommation de drogue tout en s'occupant de patients. À chaque question, il plaide le 5e amendement, refusant de répondre. Lors de l'interrogatoire, l'enquêteur fixe le docteur Dunch avec un regard sévère. « Docteur Dunch, » commence-t-il, « avez-vous consommé de la drogue tout en vous occupant de vos patients ?»« Je plaide le 5e, » répond simplement Christopher, le visage impassible. « Pouvez-vous confirmer ou nier avoir pris de la cocaïne avant d'entrer en salle d'opération ?»« Je plaide le 5e. » « Plusieurs infirmières confirment pourtant vous avoir vu consommer de la cocaïne avant d'entrer en salle opératoire. » « Confirmez-vous cela ?» insiste l'enquêteur, pris de rage. « Je plaide le 5e. » L'enquêteur, frustré mais déterminé, continue à poser des questions, mais à chaque fois, Christopher évite soigneusement de répondre, se réfugiant derrière le 5e amendement. Le silence qui suit chaque « je plaide le 5e » est lourd, rempli d'implications non dites et de vérités cachées. Le dialogue se poursuit ainsi. Un jeu du chat et de la souris entre l'enquêteur et le docteur Dunch. Chaque question est un pas de plus vers la vérité. Chaque « je plaide le 5e », un mur de plus à franchir. Et, à travers tout cela, la vérité reste insaisissable, cachée derrière les mots non prononcés du docteur Dunch. Malgré les plaintes et son refus de participer au test de dépistage de drogue, Christopher Dunch continue cependant à pratiquer la chirurgie. Après avoir effectué moins de 100 interventions, un nombre étonnamment bas pour un interne qui en réalise généralement près d'un millier, il est néanmoins autorisé à terminer son internat en 2011. Ensuite, il commence à postuler pour des emplois. Dunch semble extrêmement qualifié sur le papier. Il a passé au total près de 15 ans en formation, école de médecine, internat et spécialisation en chirurgie. Et son CV s'étend sur 12 pages à simple interligne. Dunch prétend également avoir obtenu son doctorat en microbiologie avec mention très bien de l'hôpital de recherche pour enfants Sainte-Jude, un programme que l'hôpital n'offrait pas à l'époque où il prétend y avoir assisté. Peu de temps après, Dunch rejoint le Baylor Regional Medical Center à Plano, maintenant Baylor Scott & White Medical Center, Plano, en tant que chirurgien de la colonne vertébrale à effraction minimale, avec un salaire de $600,000 par an, plus des bonus. Ainsi commence la carrière du Dr. Dunch. Dr. Dunch, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre équipe. Votre CV est impressionnant. Nous vous offrons une avance de $600,000, lui annonce le directeur de l'institut. Une offre qui laisse Dunch sans voix. C'est une offre très généreuse, répond Christopher d'une voix étonnamment calme. Nous pensons que vous en valez la peine, Dr. Dunch. Nous avons entendu parler de votre travail exceptionnel. Et nous sommes convaincus que vous serez un atout précieux pour notre équipe. Je suis honoré de votre confiance en moi. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes. Nous n'en doutons pas, Dr. Dunch, répond le directeur. Nous avons hâte de vous voir à l'œuvre. » La recommandation qui lui a valu le poste est élogieuse. Chris est extrêmement brillant et peut-être la personne la plus travailleuse que j'ai jamais rencontrée, lit-il à haute voix. Dunch ne peut s'empêcher de sourire, satisfait. Pour les hôpitaux, les chirurgiens comme Dunch sont une mine d'or. Ils génèrent des millions en revenus, en moyenne environ 2,5 millions de dollars par an. Il n'est donc pas rare qu'ils obtiennent des privilèges d'opération dans d'autres hôpitaux. Dès le début de son mandat à Baylor Plano, Dunch fait mauvaise impression à ses collègues chirurgiens. Le vétéran et chirurgien vasculaire Dr. Randall Kirby se souvient que Dunch se vantait fréquemment de ses compétences malgré son arrivée récente dans la région. Lors de leur première conversation, Dunch ne manque pas de se vanter auprès de Kirby. « Je suis le meilleur chirurgien de Dallas », déclare-t-il avec assurance. « Le seul en qui un patient peut avoir confiance. » « Vous êtes bien sûr de vous, Dr. Dunch. Trop sûr, peut-être, » dit-il en le regardant avec méfiance. « Je ne suis pas simplement sûr, Dr. Kirby. Je suis le meilleur. Les patients ont besoin de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Et c'est moi. » Il exprime également son ambition de « nettoyer la ville », une déclaration livrée avec une agressivité qui surprend Kirby. « Vous savez, Dallas est une grande ville. Beaucoup de bons chirurgiens ici. Vous n'êtes pas le seul à manier un scalpel. » « Ils sont bons. Mais je suis exceptionnel. J'ai des plans pour cette ville. Je vais nettoyer tout ça, » répond Dunch en croisant les bras et une grande intensité dans son regard. Ce qui surprend le plus Kirby, c'est le niveau d'arrogance de Dunch. Malgré son manque d'expérience, celui-ci se comporte comme s'il était au sommet de sa carrière. « Vous avez de l'ambition, je vous l'accorde, mais l'arrogance peut être dangereuse. Vous n'avez pas encore vu la réalité du bloc opératoire, » dit Kirby, les sourcils froncés. La réalité. Je suis prêt. Je vais montrer à tous que je suis le maître du scalpel. Vous ne pouvez pas apprendre ça dans les livres, Dunch. C'est dans la pratique, dans les échecs et les succès, que vous grandissez. J'ai déjà tout vu, tout fait. Vous verrez, rétorque Dunch, dédaigneux. J'espère que vous avez raison, parce que si vous échouez, les conséquences seront terribles. Murmure Kirby en baissant la voix, une lueur d'inquiétude dans le regard. En effet, face au docteur Randall Kirby, un vétéran de 16 ans d'expérience en chirurgie générale, qui a assisté à plus de 2000 opérations, dont de nombreuses interventions sur la colonne vertébrale, se vanter de maîtriser le scalpel demande un sacré toupet. En janvier 2012, le docteur Kirby voit une opportunité pour vérifier les prétentions du jeune collègue arrogant. Une opération supervisée par Kirby ou Dunch va effectuer une fusion vertébrale. Ce type d'intervention consiste à assembler deux vertèbres, habituellement à l'aide d'une plaque métallique, dans le but de soulager les douleurs dorsales du patient. Bien que cette procédure puisse sembler complexe pour les non-initiés, elle est en réalité une routine pour un neurochirurgien. Dunch ne devrait donc rencontrer aucun problème pour la réaliser. Le bloc opératoire est baigné d'une lumière blafarde. Le docteur Randall Kirby observe attentivement son jeune collègue, le docteur Christopher Dunch. Mais, dès les premières incisions, le docteur Dunch montre des signes d'incompétence. Il peine à manier le scalpel, comme s'il n'avait jamais pratiqué une telle opération. L'artère proche de la colonne vertébrale de la patiente est sectionnée, et le sang gicle d'un seul coup un peu partout. Le bloc opératoire se transforme en un véritable champ de bataille. Le docteur Kirby, impuissant, assiste à cette véritable boucherie. « Docteur Dunch, vous n'avez pas le niveau d'un interne de première ou deuxième année » s'exclame-t-il, la voix tremblante de colère. Mais il est trop tard. La patiente, à son réveil, ressent des douleurs bien plus vives qu'avant l'opération. Pire encore, elle ne sent plus sa jambe gauche. Une douleur atroce la torture pendant des mois. Un scanner révélera finalement la cause de ce désastre. Des fragments d'os provenant des vertèbres se sont insérés dans les nerfs de son dos. Le docteur Dunch, malgré sa confiance démesurée, a laissé derrière lui un patient mutilé, une vie brisée. Le bloc opératoire est désormais silencieux, mais les conséquences de cette opération ratée résonneront longtemps dans les couloirs de l'hôpital. Le docteur Kirby sait que ce n'est pas la dernière fois qu'il devra affronter les conséquences des actes de son jeune collègue. Malgré cette première expérience très inquiétante, le doute persiste quant à Dunch, qui continue à exercer. Malheureusement, quatre autres patients seront sévèrement mutilés par Dunch à l'hôpital Baylor Plano, dont Jerry Summers, son meilleur ami. Kenneth Fennell, un homme souffrant de douleurs chroniques au dos, consulte le docteur Dunch dans l'espoir d'améliorer sa qualité de vie. Après une première opération ratée où le chirurgien opère Ken au mauvais endroit, Dunch le convainc de se faire opérer une seconde fois. Malheureusement, cette décision a pour conséquence de laisser le pauvre homme presque entièrement paralysé des jambes. Aujourd'hui, Ken utilise un fauteuil roulant pour se déplacer et ne peut marcher que sur 10 mètres avant de devoir s'asseoir. Peu de temps après l'intervention sur Ken, il doit réaliser une nouvelle fusion vertébrale, cette fois-ci sur Jerry Summers, son ami d'enfance. Cela laisse présager une approche plus attentive de sa part cette fois-ci. En effet, les deux hommes vivent temporairement ensemble, Dunch hébergeant Jerry. Ils ont fréquenté la même université, continuent de sortir ensemble, et c'est probablement cette proximité qui a incité Jerry à choisir son ami, Christopher, pour cette opération. Assis à la table de la cuisine, sirotant une tasse de café, « Chris, je dois te dire que je suis un peu nerveux à propos de cette opération. Je veux dire, tu es mon ami d'enfance, mais là, c'est ma colonne vertébrale dont on parle, avoue Jerry, avec une pointe d'anxiété dans la voix. » Dunch sourit et s'assoit en face de lui. « Jerry, je comprends. Mais tu sais, je suis confiant. J'ai assisté à des milliers d'opérations et cette fusion vertébrale est une procédure assez courante. Tout ira bien. Chris, tu te souviens de ce patient lors de la première opération, celui qui a fini par, tu sais, perdre l'usage de ses jambes ?» demande Jerry, l'air préoccupé. « Oui, je m'en souviens, c'était un accident. J'ai appris de mes erreurs, Jerry. Cette fois-ci, je serai plus concentré. Et puis, tu es mon ami, je ne peux pas me permettre de te décevoir », admet Dunch avec sincérité. Jerry pose sa tasse de café. « Tu es brillant, Chris, mais parfois tu es trop sûr de toi. Ça pourrait tourner en ta défaveur. » »« Tu as raison, Jerry. J'étais arrogant, mais cette fois-ci, je vais prouver que je peux être à la hauteur. Je veux que tu te sentes rassuré. Je prêterai toute l'attention du monde à cette opération. Tu es mon meilleur ami. » »« J'espère que tu as raison, Chris. Je veux retrouver une vie sans douleur. Et si tu me laisses paralysé, je te jure que je reviendrai te hanter », plaisante Jerry, essayant de détendre l'atmosphère. « Promis, Jerry, je ferai de mon mieux. Et si tout se passe bien, on célébrera ça avec une autre de nos fameuses soirées », conclut Dunch avec optimisme. La salle d'opération est baignée d'une lumière blanche et stérile. Dunch, le scalpel en main, se tient prêt. Jerry, allongé sur la table d'opération, fixe le plafond. Leurs regards se croisent brièvement, une lueur d'inquiétude dans les yeux de Jerry. « Jerry, mon ami, nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Aujourd'hui, je te promets que cette opération va changer ta vie. Tu seras sans douleur. Je te fais confiance. Mais je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Et si quelque chose tourne mal ?» demande Jerry avec une pointe d'anxiété dans la voix. « Tu es entre de bonnes mains. D'ailleurs, j'ai mon scalpel porte-bonheur aujourd'hui », répond Dunch avec un clin d'œil complice. « Scalpel porte-bonheur ? Tu peux pas être sérieux, n'est-ce pas ?» « Bien sûr que si. Tout est une question de confiance. Maintenant, mets-toi à l'aise. Nous allons commencer l'anesthésie. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu te réveilleras en te sentant comme un homme neuf. » « D'accord, mais promets-moi une chose. Plus de clin d'œil. » « Entendu, Jerry. Plus de clin d'œil. Juste une opération réussie et un avenir plus radieux », conclut Dunch en riant. Et ainsi, l'anesthésie entre en action. Les paupières de Jerry deviennent lourdes alors que la salle s'efface. Le docteur Dunch se prépare à faire des merveilles, espérant que cette fois, tout se passe comme prévu. Il commence l'opération en incisant la peau de Jerry, révélant les vertèbres cervicales. Tout semble normal. Mais alors qu'il s'apprête à assembler les deux vertèbres, une artère est sectionnée, le sang gicle, pulvérisant la blouse blanche de Dunch. L'hémorragie est massive, incontrôlable. Dunch panique, il doit agir vite. L'artère continue de saigner et Jerry pâlit. Il attrape une compresse, la presse contre la plaie, mais le sang continue de couler. Jerry perd conscience. « Les anticoagulants, vite !» demande Dunch à l'infirmière. L'infirmière lui tend une seringue. Dunch injecte les anticoagulants directement dans la plaie. Le sang s'épaissit, la fuite ralentit. Jerry est évacué en salle de réveil. Lorsque Jerry ouvre les yeux, Il tente de bouger. Mais son corps ne répond pas. Aucun de ses membres ne lui obéit. La panique monte en lui. Que s'est-il passé? Pourquoi ne peut-il plus bouger? Dunch se tient près de lui, le visage impassible. Jerry fixe le plafond, cherchant des réponses dans les néons. Leurs regards se croisent brièvement, une lueur d'inquiétude dans les yeux de Jerry. Mais Dunch ne dit rien. Il quitte tout simplement la salle, laissant son ami sans réponse. Au lieu de signaler l'incident et de demander immédiatement un scanner pour vérifier les impacts de cette mauvaise opération sur Jerry, Dunch décide de passer à d'autres patients. Il ne veut pas que cette erreur compromette sa carrière. La paralysie de Jerry est en grande partie due aux anticoagulants qu'il a injectés lorsqu'il a coupé l'artère proche de la colonne vertébrale. Cet anticoagulant a attaqué de manière agressive la moelle épinière, l'endommageant gravement. Le nouveau chirurgien qui tente de rendre l'usage de ses membres à Jerry ne peut rien faire. Le meilleur ami d'enfance de Christopher Dunch restera paralysé à vie. Dans le grand hall du Baylor Regional Medical Center, le silence est lourd. Le directeur de l'hôpital, un homme aux traits sévères, convoque Dunch dans son bureau. La tension est palpable. « Docteur Dunch, » dit-il, sa voix résonnant dans la pièce vide. « Vous êtes suspendu pendant 30 jours. Je ne comprends pas votre position, » répond-il d'une voix calme malgré la tension palpable. « Mes actions étaient dans le meilleur intérêt du patient. « Docteur Dunch, vos actions ont entraîné des conséquences graves, » rétorque le directeur, son ton se durcissant. « Mais bon Dieu, votre meilleur ami est paralysé à cause de vous !» Dunch le regarde, son visage impassible. « Que se passera-t-il après ces 30 jours ?» interroge-t-il. « Vous ne pourrez pratiquer des opérations que sous la supervision d'autres médecins. » Après sa suspension, lorsqu'il retourne à l'hôpital, le scalpel porte-bonheur du « docteur Lamort » attend son prochain patient, ou sa prochaine victime, Kelly Martin, une femme de 55 ans. Mais comment Kelly s'est-elle retrouvée à l'hôpital ? Nous sommes en novembre 2011, dans la ville de Garland, au Texas. Kelly Martin, une enseignante de 54 ans, prépare activement les festivités de Noël. L'air est empli de l'odeur des épices, la neige recouvre doucement le paysage, et une joie contagieuse se propage dans sa maison chaleureuse. « J'adore cette période de l'année, » dit-elle à son mari, Don, un sourire radieux sur le visage. « Tout est si magique. » Mais alors qu'elle descend les décorations de Noël du grenier avec l'aide de Don, elle perd l'équilibre et tombe de l'escabeau. La douleur est instantanée, aiguë, insupportable. « Kelly !» s'exclame Don, se précipitant vers elle. « Ça va aller. Respire. » Malgré une longue rééducation, la douleur persiste et devient chronique. Elle, qui n'est pas du genre à se plaindre, éprouve des difficultés à cacher sa souffrance à ses proches. « Je vais bien », assure-t-elle à sa famille. Mais son sourire est forcé, ses yeux trahissent sa douleur. Mais en vérité, elle sait qu'elle doit trouver une solution rapidement. Sur les recommandations de son médecin traitant, elle prend rendez-vous avec le docteur Dunch. La première consultation se passe à merveille. « L'opération de l'hernie discale est une procédure courante », dit-il, son regard fixé sur Kelly. Elle ne dure que 45 minutes. Kelly hoche la tête. Un sentiment de soulagement la submerge. Merci, docteur. Je suis prête à tout pour ne plus ressentir cette douleur. Le 12 mars 2012, Kelly est conduite au bloc opératoire avec Dunch. Le Baylor Regional Medical Center considère que l'opération qu'elle doit subir est la plus basique qu'un neurochirurgien puisse effectuer. Ils estiment qu'il est absolument improbable qu'elle soit ratée. « Docteur Dunch, » dit le directeur de l'hôpital, « je crois que vous pouvez effectuer cette opération sans être supervisé. C'est une des plus basiques. » Christopher hoche la tête, un sourire confiant sur le visage. « Soyez sans crainte, monsieur le directeur, » répond-il. Pendant ce temps, Don Martin, le mari de Kelly, est dirigé vers la salle d'attente. On lui indique que l'opération durera environ 45 minutes. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Martin, » dit l'infirmière, essayant de le rassurer. « Votre femme est entre de bonnes mains. » Don hoche la tête, essayant de masquer son inquiétude. « Je sais, » dit-il, bien que sa voix trahisse un peu d'anxiété. Le temps s'écoule lentement dans la salle d'attente. Une heure passe, puis deux. Toujours aucune nouvelle de Kelly. Don Martin jeune lieutenant de police commence à s'inquiéter. Il sait que si l'opération prend autant de temps, c'est qu'il y a certainement des complications. Il décide alors de se rendre au bloc opératoire. Dunch sort à ce moment-là et discute avec lui. « Il y a eu quelques complications, » dit-il, son regard évitant celui de Don. « Mais je tiens à vous rassurer, l'opération s'est bien passée. Kelly devra passer la nuit à l'hôpital, mais elle va bien. » Don est soulagé, bien qu'une inquiétude demeure. Il retourne dans la salle d'attente, mais après quelque temps, on vient lui annoncer que sa femme est en soins intensifs. Après plusieurs heures d'attente, encore une fois, des infirmières se dirigent vers lui. Il pense qu'on va lui apprendre une bonne nouvelle, qu'il va pouvoir la voir. Cependant, les infirmières détiennent un tout autre message. Je suis désolé, monsieur Martin, dit l'une d'elles, sa voix tremblante. Votre femme, Kelly, est décédée. Le monde de Don s'effondre autour de lui. C'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La nouvelle de la mort de sa femme Kelly le frappe comme un coup de poing en plein cœur. Les murs de la salle d'attente semblent se refermer sur lui. Chaque battement de son cœur résonne dans ses oreilles comme un tambour sourd. Sa vie, telle qu'il la connaissait, vient de voler en éclats. Il sait que Noël ne sera plus jamais pareil. Le médecin légiste, en charge de l'autopsie du corps de Kelly, révèle plus tard que la cause de sa mort est due à la section d'une artère. Dunch, tout comme avec Jerry, a sectionné une artère qui se trouvait le long de la colonne vertébrale. Sauf que cette fois-ci, il ne l'a pas vue, et Kelly s'est vidée de son sang et en est morte. Cette opération désastreuse marque la fin de la carrière de Christopher Dunch au Baylor Regional Medical Center. Il présente sa démission, laissant dans son sillage une traînée de souffrance, d'interrogations sans réponse, de patients mutilés, et une vie tragiquement perdue. Cette décision, bien qu'étonnante, semble être stratégique. En démissionnant plutôt qu'en étant renvoyé, il conserve une certaine liberté de mouvement dans sa carrière. Cela pourrait lui permettre de trouver un autre poste, dans un autre hôpital, malgré les conséquences désastreuses de ses actions au Baylor Regional Medical Center. On pourrait naturellement penser qu'un médecin qui vient de paralyser un patient et d'en tuer un autre serait confronté à des problèmes juridiques. Cependant, prouver la culpabilité dans de tels cas est un véritable défi pour les plaignants. Il est difficile, voire impossible, de prouver l'intention de nuire d'un médecin suite à une faute médicale. Ce n'est pas pour autant que les actes de Dunch passent inaperçus. On le surnomme même « Dr. Death » ou simplement « Dr. D ». En effet, un médecin qui a assisté à ces opérations désastreuses dépose une plainte auprès du Texas Medical Board, l'organisme de régulation des médecins au Texas. Malheureusement, cette plainte se perd parmi les 6000 à 8000 autres que le Conseil reçoit chaque année. Ajoutez à cela les milliers de demandes d'autorisation traitées par seulement 156 employés et vous comprendrez la lenteur des procédures. De plus, chaque plainte est analysée de manière détaillée et minutieuse pour assurer une protection juridique maximale à tous les médecins et chirurgiens. Certaines enquêtes peuvent donc prendre plusieurs années pendant lesquelles les médecins continuent d'exercer. Ainsi, malgré les erreurs médicales graves commises par Dunch, le processus pour le tenir responsable de ses actes est long et complexe, laissant les victimes et leurs familles dans l'incertitude et l'attente. Nous sommes en juillet 2012, 4 mois après la mort tragique de Kelly. Dunch est à la recherche d'un nouvel emploi. Finalement, il trouve un poste au Dallas Medical Center. Une vérification des antécédents du neurochirurgien est effectuée par le nouvel hôpital. « Rien à signaler », dit l'administrateur, parcourant le dossier de Dunch. « Il peut commencer à travailler en attendant que nous menions des recherches plus approfondies. »« Nous avons reçu votre dossier du Baylor Regional Medical Center », ajoute l'administrateur. « Mais nous allons mener nos propres recherches. » « Je comprends », dit Dunch, sur un ton calme et assuré. « Je suis convaincu que vous ne trouverez rien qui puisse nuire à ma réputation professionnelle. »« C'est ce que nous espérons, Dr. Dunch. C'est ce que nous espérons. » acquiesce lentement l'administrateur en le regardant un moment. Cependant, le docteur Robert Henderson, un autre neurochirurgien de l'hôpital de Dallas, a une perspective différente. Il explique que les informations transmises par le Baylor Regional Medical Center au Dallas Medical Center se résument à un simple mail. « J'ai vu l'email », dit-il aux membres de l'administration, son regard fixé sur l'écran de son ordinateur. Il dit qu'il n'y a aucun problème avec les performances du Dr. Dunch. Il y a un silence dans la pièce. Les mots semblent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. Le Dr. Henderson secoue la tête, une expression de perplexité sur le visage. « C'est étrange », dit-il sur un ton réfléchi. « Avec tout ce que j'ai entendu sur les erreurs du Dr. Dunch, je m'attendais à voir quelque chose de plus, quelque chose de plus substantiel. » Le Dr. Henderson affirmera après que Christopher Dunch avait volontairement parlé des cas de Martin et de Jerry à l'administration du Dallas Medical Center. Le neurochirurgien, avec une assurance sans faille, explique que les tragédies de ces deux cas ne sont absolument pas dues à sa personne. Selon lui, Jerry a connu une paralysie totale due à une mauvaise interaction médicamenteuse et Kelly est décédée suite à des complications causées par l'anesthésie. Cette fois-ci, la justification de Dunch, combinée à l'email rassurant envoyé par son hôpital précédent, suffit à convaincre le Dallas Medical Center. Il décide de lui offrir un essai de 5 interventions. Les 3 premières chirurgies ont lieu sur 3 jours consécutifs, en juillet 2012. La première opération se déroule correctement, ce qui est un événement notable. Malheureusement, Dunch ne va pas continuer sur cette lancée. Avec la patiente Floella Brown et lors d'une opération de fusion vertébrale, il retire un os qui n'avait pas lieu d'être enlevé. Cette manipulation non nécessaire génère une blessure à l'artère vertébrale. Madame Brown est retrouvée dans son lit d'hôpital dans la salle de réveil sans aucune réaction. Et il est impossible de contacter Dunch pendant 90 minutes. Une nouvelle fois, la patiente a connu une hémorragie massive, une conséquente perte d'essence et une attaque cérébrale. Lorsque Madame Brown est transférée dans un autre hôpital, elle arrive en état de mort cérébrale. Si Dunch n'était pas joignable pendant 1h30, c'est qu'il était en train d'enchaîner sa 3e opération. Mary Erfund, une patiente qui devait subir une fusion vertébrale, est la suivante. Le chirurgien, avec le matériel de fusion des vertèbres, insère malheureusement une vis dans le muscle de la vieille dame âgée de 74 ans. Ainsi, lorsque la patiente se réveille, elle est en proie à des douleurs extrêmement violentes au niveau de sa colonne vertébrale. Il est même possible d'apercevoir la vis au niveau de son dos et celle-ci traverse directement le muscle. Elle souffre ainsi pendant 2 jours en attendant que son état se stabilise pour que le docteur Robert Henderson reprenne l'opération et remette la patiente en bon état. Pour Robert Henderson, neurochirurgien depuis plus de 40 ans, c'est la première fois qu'il voit quelque chose de la sorte. À tel point qu'il suppose que Christopher Dunch est un imposteur. Il va envoyer sa photo à plusieurs facultés de médecine pour vérifier qu'il a bien obtenu son diplôme. L'université du Tennessee confirme que Dunch est diplômé. Henderson met alors tout en œuvre pour tenter de le faire cesser d'exercer. Il passe des coups de fil un peu partout, mais à chaque fois, on le renvoie vers le Conseil des médecins du Texas. La réponse qui lui est faite est toujours la même. « Envoyez-nous une plainte, elle sera analysée d'ici une 30aine de jours. » Au cours de l'année, des dizaines d'autres plaintes provenant de médecins et d'avocats sont envoyées au Conseil des médecins. Mais la réponse est toujours la même. Ils doivent envoyer la plainte, elle sera analysée dans les 30 jours. Le problème, c'est que malgré tous ces incidents médicaux, Dunch bénéficie toujours d'une très bonne réputation. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les enquêtes restent confidentielles. Ensuite, les hôpitaux gardent également secret les incidents qui se passent en leur sein. Nous nous trouvons aux États-Unis et un hôpital là-bas est géré comme une entreprise. Il est hors de question qu'un scandale impliquant un médecin aussi peu scrupuleux que Dunch vienne entacher la réputation de cet hôpital. Parmi les autres victimes du Dr. Death, on compte un enquêteur du bureau du médecin légiste du comté de Collin, nommé Lee Passmore. On rapporte que Dunch a coupé un ligament autour de sa moelle épinière et a mal placé du matériel dans la colonne vertébrale de Passmore. Barry Morguloff est un autre patient de Dunch. Il souffrait de douleurs dorsales après avoir déchargé des camions. Mais finalement, Morguloff se retrouve avec plus de douleurs qu'avant et sans aucune sensation dans l'une de ses jambes. Pendant tout ce temps, Dunch continue de recevoir des patients dans son propre cabinet. Il a trouvé un emploi dans l'hôpital de la ville de Frisco. Il n'y effectue qu'une seule opération, celle de Philip Mayfield. Lors de la fusion cérébrale, le neurochirurgien perce la moelle épinière et y crée des dommages presque irréversibles. Il force si profondément dans la colonne vertébrale de Philip Mayfield qu'il crée des lésions nerveuses graves. Désormais, la peau de son patient se met à peler. Suite à ce nouveau fiasco, le neurochirurgien est démis de ses fonctions. Mais ce n'est que partie remise. Il intègre l'Université Générale de Dallas, qui a été avertie au préalable, contrairement aux autres hôpitaux. En effet, les docteurs Kirby et Anderson, qui effectuaient de temps en temps quelques opérations au sein de l'hôpital, vont supplier l'université de ne pas embaucher Dunch. Mais le mal est déjà fait. En 2013, Dunch opère Jeff Glidwell. Au cours de l'opération, Dunch confond la corde vocale de Jeff avec une tumeur. Il coupe alors un côté de l'œsophage de Jeff et sectionne 7 cordes vocales. Le neurochirurgien, peu appliqué, laisse également une éponge médicale dans la gorge de son patient. De la salive et du pus s'accumulent à cet endroit. Comme pour tous les autres patients, une artère au niveau de la colonne vertébrale est aussi sectionnée. Le docteur Kirby est appelé en urgence pour corriger la situation et effectuer une opération rectificative. « C'en est trop, » dit-il d'un ton grave. « Je dois faire quelque chose. » Cette fois-ci, le docteur Kirby rassemble tout ce qu'il sait sur Dunch et envoie le tout une nouvelle fois au Conseil des médecins du Texas. Il utilise également ses relations pour que ce rapport arrive rapidement sur le bureau de quelqu'un d'influent. « Si rien n'est fait, des personnes vont mourir, » écrit-il dans son rapport. Et cela relèvera de la responsabilité du Conseil des médecins. C'est certainement pour cette raison que le 26 juin 2013, l'institution se réunit en urgence pour suspendre Dunch. Il aura fallu attendre des dizaines de personnes mutilées et plusieurs décès pour que le Conseil s'active enfin. La suspension de Dunch est une première victoire. Cependant, celui-ci pourrait reprendre l'exercice dans un autre établissement. C'est pourquoi Kirby et Anderson suggèrent conjointement au procureur de Dallas d'agir judiciairement contre lui. Néanmoins, pour inculper Dunch, il faut démontrer que les mutilations subies par les patients ont été commises de manière délibérée. De nombreux témoignages sont recueillis par les patients et les différents médecins. Mais ce qui va définitivement permettre d'inculper Dunch, c'est un email. Un email envoyé à sa secrétaire dans lequel il indique « Je suis prêt à abandonner l'amour, la gentillesse, la bonté et la patience qui font partie de moi et à devenir un tueur de sang-froid. » Ces lignes terrifiantes en provenance d'un neurochirurgien permettent de l'inculper. Dunch est arrêté en juillet 2015. Il va être accusé et doit faire face à 11 chefs d'accusation. Il fait surtout face à 5 chefs d'accusation de voies de fait graves, suite à la mutilation de 5 de ses patients. Une foule de témoins se présente et des langues se délient. On apprend que Dunch lançait des opérations alors qu'il était alcoolisé et drogué. Il se procurait également des médicaments sur ordonnance de façon illégale, qu'il s'administrait lui-même à de nombreuses reprises. Des infirmières, des infirmiers, ainsi que d'autres médecins, se sont opposés physiquement à Dunch pendant les opérations. C'est ainsi qu'en 2017, à la fin de son procès, Christopher Dunch est reconnu coupable de tous ses actes. Il doit effectuer une peine de prison à vie, accompagnée d'une période de sûreté de 45 années. C'est une première. Un médecin est condamné à une peine de prison pour faute professionnelle. Ce jugement crée une jurisprudence, c'est-à-dire un précédent. Dunch, bien sûr, nie toute responsabilité et ne présente jamais d'excuses aux patients qu'il a mutilés. L'affaire du docteur Death a eu des répercussions significatives sur la décision de loi adoptée en juin 2023 au Texas. Cette loi vise à empêcher les médecins dont les licences ont été révoquées dans d'autres États de pratiquer au Texas. Elle oblige également le conseil médical local à informer le public lorsqu'un médecin fait l'objet de mesures disciplinaires, ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire de Dunch. Dr. Death, ou simplement Dr. D, laisse derrière lui un sillage de désolation, de corps brisés et de familles dévastées. L'un des patients était son meilleur ami, Jerry Summers, qui est malheureusement décédé en 2021. Le documentaire Dr. Death de Peacock informe que Dunch a pratiquement séparé la tête de Jerry de sa colonne vertébrale. Pourtant, l'affaire du Dr. Death reste un véritable dilemme. D'un côté, il est indéniable que Dunch a commis des erreurs médicales graves, causant des souffrances et la mort de plusieurs patients. Son manque d'empathie est frappant Et il a continué à opérer, même après avoir causé la mort de Kelly Martin. Ses emails révèlent un ego surdimensionné et une absence totale de conscience morale. On pourrait le qualifier d'incompétent, incapable de reconnaître ses limites et de prendre des décisions éthiques. D'un autre côté, certains éléments suggèrent une dimension plus sombre. Le qualificatif de psychopathe armé d'un scalpel est troublant. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes de son plaisir à mutiler des patients, son comportement dépasse largement la simple négligence. Et voici ce qu'il répond aux patients paralysés. « Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. C'est glaçant. » Cela pourrait indiquer une indifférence totale envers la souffrance humaine. Pendant 2 ans, Dunch a pratiqué des interventions chirurgicales sur 38 patients dans la région de Dallas, au Texas. Parmi ces 38 patients, 31 sont restés paralysés ou gravement blessés. Et 2 d'entre eux sont décédés des suites de complications chirurgicales. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.